France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. David Chavalarias, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mathématicien, directeur de recherche au CNRS et au Centre d'analyse et de mathématiques sociales, le CAMS, de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes aussi directeur de l'Institut des systèmes complexes de Paris-Île-de-France, au sein duquel le politoscope, sur lequel vous allez revenir, est né. Et si je vous ai invité au cœur de cet été 2026, c'est que vous êtes un spécialiste de la manipulation de l'opinion sur les réseaux sociaux. Vous avez écrit un livre important en 2022 chez Flammarion intitulé « Toxic Data », ouvrage qui montre la puissance des réseaux dans la manipulation de l'opinion. Vous avez publié en juin 2025 Elon Musk en 50 tweets au Seuil. Et vous avez également publié un très intéressant entretien avec Philippe Askenazy et Mathilde Viennot dans le numéro 237 de Raison Présente, intitulé « Data, impérialisme économique et idéologie », auquel je renvoie chaleureusement les auditeurs de France Culture. J'avais envie de vous entendre non seulement sur l'immense danger des réseaux pour la démocratie, mais aussi sur les modes de résistance possibles à ces réseaux. Alors peut-être ma première question s'adresse aux mathématiciens que vous êtes. De quels outils spécifiques disposez-vous, plus qu'un sémanticien ou un politiste, bien que je ne veuille pas les opposer et que j'imagine au politoscope, il n'y a pas que des mathématiciens pour démontrer l'inadaptation des démocraties à la nouvelle donne numérique. Vous allez sans doute nous parler de la statistique, de la bonne connaissance, de la vraie connaissance des algorithmes.
Oui, alors, l'approche que j'ai donc des réseaux sociaux, c'est l'analyse des traces numériques. Ce que l'on voit, et l'hypothèse, c'est que avec les réseaux sociaux, donc une partie de l'activité sociale s'est déplacée sur des supports qui laissent des traces, où on peut à la fois lire les contenus, mais savoir qui a interagi avec qui. Et en fait, quand on analyse ces traces, on peut reconstituer des structures mathématiques qui s'appellent des réseaux ou des graphes, où on a en gros des entités qui sont liées entre elles par des types d'interactions, qui peut être des likes, un partage, un commentaire. Et ces structures-là peuvent être analysées avec les outils mathématiques. Et on peut comprendre à la fois les structures internes de ces graphes qui vont en fait donner les groupes d'intérêt. Et c'est par exemple ce que font les grands réseaux sociaux pour catégoriser les personnes en groupes d'intérêt. Ils analysent en fait qui interagit avec qui et trouvent des gens qui interagissent beaucoup ensemble, par exemple autour du football, autour de la musique, etc. Mais ils n'ont pas besoin de savoir que c'est le football ou la musique. Ils ont juste besoin de savoir qu'ils interagissent beaucoup ensemble et donc ils ont le même centre d'intérêt. Donc on va trouver des structures dans ces graphes. Et après, on va pouvoir aussi étudier leur évolution. C'est-à-dire, est-ce que les structures se transforment? Est-ce que, par exemple, des communautés politiques vont fusionner ou, au contraire, faire scission? Et donc, il y a tout un ensemble d'analyses que l'on peut faire, même avant la sémantique, juste par l'analyse des structures. Et après, on peut, évidemment, réintroduire la sémantique. Et donc, c'est un petit peu cet angle-là que l'on a adopté avec cet objet, cet outil Politoscope.
Alors, vous pouvez nous parler de cet outil, quel Politoscope, que vous avez créé?
Oui, tout à fait. Donc, je l'ai créé avec des collègues, notamment Mazir Panahi pour toute le côté collecte de données, donc au CNRS. Donc, c'est un outil d'observation du web social. Plus précisément, à l'époque, on travaillait beaucoup sur le média Twitter, qui est devenu X. Mm-hmm. On travaille aussi sur d'autres réseaux. Mais l'idée, en fait, c'était d'observer ce média qui, à l'époque, était assez divers et de comprendre les formes de militantisme en ligne. Comment des débats se développent, comment les gens s'affrontent sur ce genre de médias ou, au contraire, entrent en synergie. Et donc, très concrètement, on se connectait au protocole informatique de Twitter qui, à l'époque, livrait les données, qui sont des données publiques, hein, mais en masse, et on pouvait donc collecter l'ensemble des traces numériques sur ce réseau-là et reconstituer donc qui interagit avec qui, et du coup, les structures sociales, les structures de militantisme et leur évolution. Et donc, on a observé sur 5-6 ans l'évolution de la vie politique française sur ce réseau-là, avec une granularité incroyable. C'est-à-dire qu'on avait des phénomènes à l'échelle de la minute ou de l'heure, mais aussi sur des très grandes distances, enfin des temporalités assez importantes. Et ça nous a permis de quantifier donc l'évolution de l'espace politique. Mais on a fait la même chose aussi sur le climat, donc il y a le climatoscope, sur la pandémie. Et en croisant en fait ces différents types de bases de données, on peut dire vraiment beaucoup de choses sur ce que la France a traversé depuis en fait 2016 et donc jusque 2023, la date où on a dû fermer en tout cas cet observatoire précis-là après qu'Elon Musk ait coupé tous les accès.
Et l'observatoire continue, le politoscope continue ?
On continue, mais sur d'autres types de réseaux. Et par exemple, il y a des choses. Donc, on ne faisait pas seulement l'observatoire du militantisme politique en ligne, on faisait aussi des choses comme, par exemple, essayer de qualifier les ingérences et les dysfonctionnements du réseau, on pourra en reparler. Oui. Mais par exemple, ce genre de choses-là, on ne peut plus le qualifier. Et donc, vous avez un réseau, là, entre autres, en l'occurrence X, qui est un peu livré à lui-même, puisqu'il n'y a plus de modération digne de ce nom et qu'il n'y a plus personne pour regarder ces dysfonctionnements.
Ah oui. Qu'est-ce qui vous a d'abord alerté sur cette urgence démocratique avec les réseaux ?
Alors, le début de mon intérêt par rapport au réseau et en gros démocratie ou société est assez ancien. Moi, je me suis intéressé depuis le début. Je m'intéresse aux phénomènes d'influence sociale, d'imitation, donc dans les années 2000. Et quand les réseaux sont arrivés, en fait, on a bien vu que c'était un des médias ou des médiums sur lesquels les gens allaient s'influencer les uns les autres. Et donc, il y avait vraiment une question de qu'est-ce que ça allait changer à la société quand on pouvait s'influencer à travers les frontières, avec des communautés très, très larges. Et puis, progressivement, on a vu que ces réseaux sociaux étaient utilisés notamment par les États. Donc, il y a eu, par exemple, l'affaire Snowden, qui a montré qu'en fait, des États comme les États-Unis collectaient en masse tout ce qui se passait sur les médias numériques pour, après, essayer de faire de la détection de délinquants, de terroristes, voire plus. Et puis ensuite, les politiques, dans les années 2008 et plutôt 2010, ont commencé à utiliser les réseaux sociaux pour faire de la politique. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, initialement, avaient construit un modèle économique sur la publicité, et donc ils vendaient des shampoings, des chaussures, n'importe quoi. Et puis, petit à petit, les politiques se sont dit « Ah bah, moi, je vais pouvoir vendre des opinions politiques ». Et donc, ils ont commencé à utiliser la publicité ciblée, en utilisant donc l'infrastructure. Et puis, par ailleurs, d'autres acteurs, notamment des acteurs étatiques comme la Russie, se sont mis à essayer d'influencer ces réseaux par l'extérieur, c'est-à-dire en créant, par exemple, des faux comptes. Des groupes aussi marginalisés, comme souvent par exemple à l'époque l'extrême droite, ce qui n'est plus le cas maintenant, utilisaient aussi...
La marginalisation.
Utilisaient aussi beaucoup ce genre de réseaux sociaux pour créer en fait des polémiques quasiment de toutes pièces. Et donc dans les années 2015, on a commencé à voir ce genre de pratique, c'est ce qu'on appelle l'astroturfing, c'est-à-dire on va créer des fausses foules numériques pour faire croire que tout d'un coup, tout le monde s'alerte sur une chose ou une autre. Et avec notamment ce qui s'est passé avec le Brexit, puisqu'il y a eu beaucoup d'influence et d'ingérence sur les réseaux sociaux par rapport au Brexit, en poussant le thème de l'immigration de manière artificielle et des choses comme ça. Puis, en 2016, il y a eu l'élection de Trump. C'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, il faut absolument qu'on ait les moyens, nous, d'observer ce qui se passe sur nos environnements numériques, parce qu'il va y avoir 2017, pardon. Et donc, c'est là que j'ai lancé le Politoscope. Et en fait, l'urgence à analyser ce genre de médias par rapport à la santé démocratique n'a fait que devenir de plus en plus aiguë avec le temps, et notamment
critique,
et notamment maintenant avec le deuxième Trump et son instrumentalisation de toutes les infrastructures numériques, on peut y revenir. Là, il y a à la fois une instrumentalisation externe des réseaux sociaux, c'est-à-dire via les faux comptes et les choses comme ça, mais aussi une instrumentalisation interne, c'est-à-dire via les algorithmes, par les plateformes elles-mêmes.
Oui, c'est à cela que je veux venir. On peut distinguer, je crois, au moins deux choses. La poursuite de la rentabilité des propriétaires des GAFAM, milliardaires aux objectifs orthogonaux avec le bien-être de leurs utilisateurs et qui font tout pour les rendre captifs de leurs services numériques. Et l'instrumentalisation de ces services par des acteurs hostiles aux démocraties, notamment aux fins de manipulation de l'opinion. Mais est-ce que le terme manipulation est bon ?
Oui, tout à fait. On peut vraiment parler de manipulation. Alors, pour reprendre vos deux catégorisations, il y a effectivement une action externe ou une utilisation des services eux-mêmes. Hein, donc, j'ai mentionné tout à l'heure la publicité ciblée. C'est une manière, hein, si vous êtes un parti politique, eh bien, vous pouvez dépenser, certains partis dépensent des centaines de milliers d'euros en publicité ciblée, ce qui permet en fait de délivrer un discours taillé sur mesure pour une personne donnée et éventuellement de dire le contraire à la personne d'à côté. Personne ne peut vérifier, en fait. Hein. Donc, il y a ça. Donc, il y a la création de faux comptes. Donc, ça, c'est la manipulation externe. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que indépendamment même d'une intention d'acteurs externes pour manipuler les opinions, l'infrastructure elle-même des réseaux sociaux, par leur conception, est délétère pour le débat public et la démocratie. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux, donc ça n'a échappé à personne qu'ils étaient gratuits. Comme on dit, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Oui. Et en fait, le produit qui a été trouvé, c'est justement arriver à collecter suffisamment de données sur les utilisateurs pour après leur revendre de la publicité. Et pour cela, en fait, il faut les maintenir captifs en ligne, les faire passer le plus de temps possible, les faire interagir avec les infrastructures de réseaux sociaux le plus possible. Et pour cela, les réseaux sociaux ont mis en place ce qu'on appelle le fil d'actualité, c'est-à-dire un endroit où l'utilisateur, après s'être abonné à un environnement social, reçoit les différents contenus qui viennent de cet environnement social. Sauf que il ne reçoit pas tout et il ne reçoit pas que ça. Et c'est là où intervient pas mal de travers, c'est-à-dire que la manière dont les plateformes ont décidé de vous apporter de l'information, c'est en disant « je vais vous apporter une information qui va vous faire le plus réagir sous forme de commentaires, likes, posts ». Et donc en fait, ce qu'elles font à longueur de journée, c'est qu'elles apprennent de votre comportement pour après vous présenter les posts qui vous font le plus réagir. Et on peut montrer que quand on fait ça, automatiquement, en fait, on va présenter aux utilisateurs les contenus les plus délétères, toxiques, et on va en gros amplifier une sorte de paranoïa collective en disant, voilà, les gens sont les uns contre les autres. Et ça, c'est un des effets délétères des réseaux sociaux qui sont juste dus à leur modèle économique.
David Chavalarias, les démocraties sont-elles désarmées face à cela, et à quel niveau agir ? Est-ce que les citoyens peuvent faire quelque chose ? Est-ce que les États peuvent faire quelque chose ? Est-ce que l'Europe peut faire quelque chose ?
Alors oui.
Pour résister ?
Alors oui, il y a vraiment beaucoup de pistes pour résister. Et vous avez raison de dire que c'est à la fois les citoyens, l'État, l'Europe. C'est-à-dire qu'il faut arriver à aller sur tous les niveaux à la fois. Il y a déjà un enjeu de bien comprendre les dangers de ces réseaux sociaux. L'objet réseau social en lui-même n'est pas dangereux, au sens la mise en relation avec les autres n'est pas dangereuse, mais c'est la façon dont c'est mis en relation, le modèle économique actuellement, qui pose problème. Donc il y a déjà une prise de conscience. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les réseaux sociaux ne se valent pas. Les réseaux sociaux traditionnels sont construits sur, donc, comme on l'a expliqué, des infrastructures captives. Elles cherchent à vous maintenir dans un environnement où elles vont pouvoir vous abreuver de certaines choses. Et dans certains cas, par exemple, pour X avec Elon Musk, il y a une intention claire d'abreuver d'une certaine idéologie. Hein, l'algorithme est biaisé dans ce sens-là.
Et pour les auditeurs de France Culture, est-ce qu'on peut donner des pistes précises là-dessus ?
Oui, oui. Alors,
se désabonner d'eux ?
Justement, à partir du moment où on a compris que certains réseaux sociaux en fait, utilisent vos données pour vous abreuver de quelque chose en particulier, la question c'est, est-ce qu'il en existe ou vous pouvez choisir vous-même comment vous êtes alimenté ? Et il en existe. C'est des réseaux qui se sont mis en place il y a quelques années sur des nouvelles manières, nos protocoles informatiques, c'est-à-dire des nouvelles manières d'échanger l'information. Et pour l'instant, donc, il y a deux grands écosystèmes. L'un qui est Blue Sky, Eurosky. Eurosky, c'est la version européenne de Blue Sky, mais c'est interopérable. Vous pouvez aller chez l'un ou chez l'autre, vous pourrez toujours vous connaître. Communiquer. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle le fait divers, avec à l'intérieur Mastodon, qui est pareil, un équivalent, par exemple, de Twitter. Mais dans le fait divers, il y a aussi un équivalent de YouTube, il y a un équivalent d'Instagram. Et ce qui est important, c'est de voir que ce sont des écosystèmes, c'est-à-dire que c'est des infrastructures sociales. Quand vous rentrez dedans, eh bien, avec le même compte, vous pouvez vous connecter, interagir avec l'équivalent de YouTube, l'équivalent de Twitter, l'équivalent de Facebook. Et surtout, ce sont des écosystèmes qui sont, ce qu'on dit, libres et ouverts, au sens où il n'y a pas d'algorithmes prédéfinis qui sont imposés. Vous pouvez, dans certains cas, même choisir vos algorithmes. Vos données, vous savez où elles sont hébergées. Vous pouvez migrer d'un fournisseur de services à un autre si jamais les conditions qu'ils vous font sont pas bonnes, notamment en exploitant vos données. Et donc, en fait, ce sont vraiment des nouveaux espaces d'innovation. Et donc, ces nouveaux espaces d'innovation sociale, qui pour l'instant donc déploient des services équivalents à ce qu'on avait avant, mais qui vont développer beaucoup plus de choses après, sont des nouvelles opportunités. Et il faut comprendre qu'en gros, en 5 minutes, vous pouvez bouger. Et nous, par exemple, au CNRS, on a développé une plateforme qui vous aide à circuler dans ces espaces numériques, qui s'appelle Open Portability, qui est aussi accessible par GPS.social, et qui permet en fait de reconnecter avec les personnes auxquelles vous étiez connectés sur X, bientôt sur LinkedIn, sur YouTube, et aussi reconnecter dans les nouveaux environnements numériques dont je viens de parler. Et ça, c'est vraiment un thème très important, c'est la liberté de circulation dans l'espace numérique, la liberté de choisir comment on vous informe. Il faut savoir que maintenant, c'est possible et que ça prend strictement 5 minutes pour passer d'un environnement à l'autre.
Au niveau étatique et européen, en un mot, deux, trois.
En un mot, c'est favoriser justement ces nouveaux écosystèmes. C'est-à-dire qu'on peut favoriser l'émergence de nouveaux écosystèmes ouverts, interopérables, et qui permettent en fait aux utilisateurs de choisir comment ils vont être informés et surtout de circuler. On a à peu près les mêmes enjeux qu'il y avait au début avec le téléphone. Au début, le numéro de téléphone, vous ne vous appartenez pas et donc vous ne pouviez pas changer d'opérateur sans tout perdre. Eh bien, il y a le même enjeu maintenant que les réseaux sociaux. Vous pouvez vous réapproprier votre identité numérique et circuler librement en circulant avec votre audience et votre identité numérique. Et c'est ça vraiment l'enjeu de la régulation au niveau européen. Il y a des nouveaux règles qui viennent de sortir là-dessus. Et il y a aussi un enjeu sur la question de la responsabilité éditoriale, avec aussi des nouvelles réglementations qui viennent de sortir.
Merci David Chavalarias.
Merci.
Je renvoie au numéro 237 de Raison Présente, intitulé « Pouvoir et science », dans lequel vous pouvez retrouver cet entretien avec David Chavalarias. Comme beaucoup d'associations militantes et non subventionnées, l'Union Rationaliste a besoin de vous, nos revues aussi. Et vous pouvez vous abonner à des tarifs exceptionnels en ce moment et à Raison Présente et au Cahier Rationaliste. Je remercie sur France Culture Philippe Baudouin et Nicolas Leroulé qui ont rendu possible cette émission. Je remercie sur le site claire.signon et Nathalie Comte et je vous dis au mois prochain.